Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une figure majeure, mais pourtant pas très connue, de l'orgue français du XXe siècle, un compositeur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Jean Langlet. Il fut un organiste virtuose, un improvisateur absolument remarquable, un pédagogue très recherché et, vous allez l'entendre, un compositeur prolifique. Alors Jean Langlet occupe une place singulière dans l'histoire de la musique française. Il est très connu des organistes, mais un peu moins du grand public, ce qui est, je trouve, un petit peu dommage. Et c'est l'héritier de la grande tradition symphonique de l'orgue. Il a été profondément nourri dans son esthétique et dans la façon dont il a composé par le chant grégorien ainsi que la spiritualité catholique, et il a su développer à partir de cela un langage immédiatement reconnaissable. Vous allez l'entendre, où se côtoient des modalités anciennes, des harmonies modernes, des rythmes très incisifs et des couleurs orchestrales évidemment propres à cette façon de composer, et surtout sur les orgues Cavaillé-Coll dont je vous ai déjà parlé dans certaines émissions. Alors, durant ces prochaines minutes, nous allons découvrir plusieurs facettes de son œuvre. Alors, l'organiste, inspiré par le Moyen-Âge, le compositeur liturgique, mais aussi le musicien virtuose capable, vous allez l'entendre, de déployer toute la puissance et toute la joie de l'orgue. Mais alors, avant d'écouter sa musique, vous le savez, on va faire un petit point biographique pour que vous sachiez qui est cet homme. Alors, Jean Langlet, né en 1907 à La Fontenelle, en Bretagne, et très tôt, sa vie est marquée par une épreuve décisive. Il perd progressivement la vue et devient totalement aveugle dès l'enfance. En fait, à 2 ans, il devient aveugle. Et en fait, cette cécité, loin de freiner son développement artistique, au contraire, va contribuer à forger une personnalité musicale exceptionnelle. Il rentre à l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. C'est un établissement prestigieux qui a déjà vu passer plusieurs grands musiciens français. Et il y reçoit une solide formation musicale avant d'intégrer le Conservatoire de Paris. Et c'est notamment à l'un de ses maîtres qu'il va dédier la première œuvre que nous allons écouter. Alors au Conservatoire de Paris, il étudie notamment avec 2 grands maîtres prestigieux, Paul Ducas pour la composition et surtout Marcel Dupré pour l'orgue. Mais il va y avoir une rencontre absolument déterminante, c'est celle de Charles Tournemire. Tournemire, je vous le rappelle, c'est alors le titulaire du grand orgue de la basilique Sainte-Clotilde à Paris. Vous savez, c'est une tribune qui est quand même extrêmement célèbre, hein, depuis que César Franck a été l'un de ses organistes. Alors Tournemire, lui, c'est un mystique, hein, dans sa façon de composer, un improvisateur génial, passionné par le chant grégorien. Vous savez, il a écrit cette œuvre pour orgue extraordinaire, l'orgue mystique, en se fondant sur les chants grégoriens. Et il y développe une esthétique profondément spirituelle qui va marquer durablement le jeune Langlet. Alors à la mort de Tournemire en 1939, Jean Langlet lui succède à cette fameuse tribune de Sainte-Clotilde et il va y rester plus de 40 ans, devenant l'une des figures emblématiques de l'orgue parisien. Et il faut également dire que, en parallèle à ses fonctions liturgiques, hein, qui sont quand même très prenantes, il réussit à mener une carrière internationale de concertiste. Alors, il donne des récitals partout, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, également en Asie. Et en parallèle de ça, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, il compose. Et son activité de compositeur, faut le dire, est considérable. En plus d'être remarquable, plus de 200 œuvres voient le jour, pour orgue naturellement, mais également pour chœur, orchestre, musique de chambre et musique liturgique. Alors son langage musical demeure très personnel, hein, c'est effectivement une écriture extrêmement marquée, comme ce fut le cas avec Franck et comme ce fut le cas avec Tournemire. Donc il s'inscrit dans cette tradition des grands organistes qui ont leur propre identité à cette basilique Sainte-Clotilde, et on va y retrouver, vous allez l'entendre, l'influence du grégorien, de la modalité médiévale, mais aussi des harmonies modernes, héritées de Debussy, Ravel, ou encore, bien sûr, Tournemire. Alors Jean Langlet s'éteint en 1991, il n'y a pas si longtemps, laissant derrière lui un héritage immense qui continue aujourd'hui d'être joué par les organistes du monde entier. Et alors, pour entrer dans son univers, nous allons maintenant écouter 2 pages extraites de sa célèbre suite médiévale. Alors on commence par le prélude de l'entrée. C'est une œuvre qui est très célèbre hein, dans tout son catalogue. Alors composée en 1947, la suite médiévale s'inspire directement de l'univers du chant grégorien et de l'esthétique des cathédrales médiévales. Le premier mouvement est donc intitulé Prélude de l'entrée et il évoque immédiatement une procession solennelle. Dès les premières mesures, Jean Langlais utilise de larges quintes parallèles qui rappellent presque les sonneries des trompettes anciennes et le langage est volontairement archaïsant, vous allez entendre. Il ne cherche pas vraiment à reconstituer le Moyen-Âge historique, mais plutôt à en suggérer l'atmosphère. Et l'un des procédés les plus remarquables réside, vous allez l'entendre, dans le dialogue entre les trompettes du récit et celles du grand orgue, ces appels qui se répondent d'un clavier à l'autre comme des fanfares qui résonnent sous les voûtes d'une immense église. Alors l'effet d'écho est saisissant, l'orgue devient presque un ensemble de cuivres répartis dans l'espace. Alors je vous invite à découvrir ce prélude d'entrée, ici interprété par David Briggs. Prélude de l'incroyable suite médiévale de Jean Langlais sous les doigts de David Briggs à l'orgue de la cathédrale de New York. Ça donne une belle entrée en matière et nous allons poursuivre toujours avec cette suite médiévale avec un mouvement tout à fait différent. Alors après la solennité de l'entrée, Jean Langlais nous conduit vers un univers beaucoup plus intérieur avec la méditation. Ici, l'influence de Charles Tournemire apparaît de manière beaucoup plus évidente. En vérité, on retrouve cette écriture très libre, presque improvisée, où les thèmes semblent émerger puis disparaître dans une sorte de halo sonore constamment renouvelé. Et la pièce repose sur deux mélodies grégoriennes particulièrement célèbres. La première, c'est l'antienne Ubi Caritas, traditionnellement chantée le jeudi saint, et la seconde, monde, c'est l'hymne Jesu Dulcis Memorial, un des grands textes de la tradition monastique. Alors ces thèmes ne sont jamais présentés de manière rigide ou académique. Bon, il est vrai que le Ubi Caritas arrive presque un peu sur ses grands chevaux, mais ils apparaissent comme des souvenirs lointains parce que vous allez voir, ils vont être un petit peu entourés par cette évanescence musicale qui est absolument magnifique. Alors vous avez ces harmonies flottantes, des registrations très délicates et un rythme très libre, créant une atmosphère de contemplation profonde, et on imagine aisément cette musique accompagnée un moment de communion ou de post-communion lorsque la liturgie invite au recueillement intérieur. Alors, sans plus attendre, je vous invite à écouter cette magnifique méditation de Jean Langlais, toujours sous les doigts de David Briggs. Voilà pour cette magnifique méditation de Jean Langlais. Et en plus, si vous prêtez une oreille attentive à cet extrait, vous entendrez peut-être au fond une alarme de police. Effectivement, comme si l'effervescence de la ville de New York bien continue à l'extérieur de cette cathédrale et était suspendue par la musique à l'intérieur grâce à la musique de Jean Langlais. Je trouve que c'est un clin d'œil qui est assez amusant, mais en même temps assez révélateur de ce qui peut se passer effectivement dans ces espaces et le rôle qu'a joué la musique dans notre société. Ça peut être effectivement un petit clin d'œil. Alors maintenant, nous avons parlé évidemment de cet aspect purement organistique et maintenant on va parler de quelque chose, d'une autre partition qui est extrêmement célèbre. Il s'agit de sa messe solennelle, puisque ce compositeur fut également un compositeur choral particulièrement inspiré, et il a écrit cette messe solennelle en 1951. C'est sans doute l'œuvre chorale la plus connue de Jean Langlais. Elle a été écrite pour chœur mixte et deux orgues, et elle conjugue magnifiquement la tradition liturgique et les recherches harmoniques du XXe siècle. Vous allez entendre, là, c'est beaucoup plus moderne. Alors, le Kyrie qui ouvre la messe frappé immédiatement par un caractère très monumental, la supplication traditionnelle du Seigneur prend pitié prend ici une dimension presque architecturale, avec ces grandes masses sonores qui se déploient avec une majesté impressionnante et une harmonie assez rutilante, il faut le dire. Et pourtant, malgré cette puissance, la musique conserve une chaleur très humaine, ici sublimée par les voix d'enfants, vous allez l'entendre. Les harmonies sont riches, parfois audacieuses, mais je trouve jamais froides ou abstraites. Et en fait, moi, c'est mon ressenti personnel, je trouve que Langlais parvient à unir la gravité de la prière et une remarquable intensité expressive. L'écriture chorale est particulièrement exigeante, alternant des vastes accords et des mouvements contrapuntiques, et également de longues et très belles lignes mélodiques, vous allez entendre. Alors, nous allons écouter maintenant ce Kyrie, interprété par le chœur du St. John's College de Cambridge. Et voilà pour cette incroyable entrée de la messe solennelle de Jean Langlais, un kyrie tout en splendeur et qui commence avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de rutilance et qui termine véritablement en apothéose. Bien sûr, je vous invite à écouter la messe dans son entièreté pour vous faire une idée de cette magnifique œuvre. Et alors pour conclure cette émission, j'aimerais que l'on retrouve Jean Langlais avec son instrument de prédilection, l'orgue seul, avec la présentation de cet extrait final qui est faite. C'est tout simplement une véritable incantation qui est là avec une énergie rythmique qui emporte l'auditeur, des motifs qui se répondent, qui se développent et qui s'amplifient. C'est quelque chose d'assez extraordinaire avec bien entendu une grande forme de virtuosité. Vous avez cet aspect festif de fête donc qui est là avec la rythmique, les claviers qui se répondent les uns les autres avec une forme de jubilation et on y retrouve dans ce morceau cette capacité très française à exploiter toutes les ressources de l'orgue. Les jeux de fond majestueux, les anges éclatantes, les contrastes des plans sonores et bien sûr les effets de couleur. Ici en plus sous les doigts d'un grand interprète comme Christopher Young, cette musique révèle toute sa vitalité et toute sa force communicative. Voici donc notre extrait fête. C'est sous les applaudissements que se conclut ce numéro de Point d'Orgue consacré à Jean Langlais. À travers ces quelques œuvres, j'espère que vous avez découvert un grand musicien très attachant, profondément enraciné dans la tradition, évidemment, de tous ses prédécesseurs. C'est effectivement plus de 30 ans après sa disparition que nous pouvons constater que sa musique continue de résonner dans les tribunes et les grandes salles du monde entier. Merci de votre fidélité à Point d'Orgue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.